Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Ah ouais, tes conneries, espèce d'imbécile.
Ouais, tu me traites pas.
Bah, tu parles pas comme ça, d'accord? Les connards qui ont tabassé Abdel, ils vont être condamnés. Tu peux me faire confiance?
Allez, tu rêves là, allez.
Les autres là-haut, ils sont là simplement pour protéger Abdel et sa famille. Putain, chaque fois tu ramènes ta merde là. Espèce d'imbécile, va. Tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger.
Ah ouais, et qui nous protège de vous?
Et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Et bien, dernière émission de l'année pour nous. Dernière émission, et puis on fait un petit retour sur cette année avec donc notamment ce qui a un peu tenu en haleine cette fin d'année, à savoir la répression qui s'est abattue sur le mouvement des soulèvements de la Terre. Et donc on va commencer par un petit retour sur les soulèvements de la Terre, la dynamique, et puis aller jusque ce point d'inflexion qui a eu lieu donc ce printemps et qui a montré quand même un nouveau visage de la répression, à la fois beaucoup plus féroce et beaucoup plus implacable que ce qui avait été connu jusque-là, à la fois à l'échelle des soulèvements et mais plus largement à l'échelle du mouvement écolo en France, voire en Europe. Et donc on va finir par ça, parler du printemps et puis prendre des nouvelles des personnes qui ont eu affaire à la répression. Et pour ça, pour nous parler de ceci, nous avons en studio Marcel qui participait donc les soulèvements de la Terre désormais administrativement dissous et donc qui est parfaitement compétente de nous en parler puisqu'elle a participé au livre où on ne dissout pas un mouvement 40 voix pour les soulèvements, c'est ça?
On ne dissout pas un soulèvement.
On ne dissout pas un soulèvement, ouais. C'est ça. Voilà. bienvenue dans Zoom Écologie.
Merci.
Donc pour commencer, les soulèvements, on en a beaucoup entendu parler ce printemps, notamment à cause de la répression qui s'est abattue dessus. Mais en fait, c'est un mouvement assez long qui était présent depuis plus de 2 ans maintenant dans le paysage, on va dire, militant écolo français, avec un ensemble de saisons qui pointaient différents éléments de lutte pour la défense, on va dire, assez largement de nos conditions de vie et de production agricole convenable. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur cette dynamique apportée les soulèvements pendant toutes ces 5 saisons?
Oui, tout à fait. Donc les soulèvements de la Terre... ont démarré il y a 2 ans et demi maintenant. Il y a eu 5 saisons. L'axe thématique qui a été identifié, ça a été vraiment la question de la Terre. Et ce que je trouve vraiment très pertinent là-dedans, c'est que la Terre, c'est vraiment à la croisée des questions à la fois écologiques, sociales, coloniales. Il y a eu vraiment le fait de se focaliser initialement sur les questions de... l'accaparement de la terre et l'artificialisation des sols. Et puis ensuite, au fur et à mesure des rencontres, la question de l'eau aussi est devenue vraiment très très importante. Donc c'est vraiment un mouvement de défense des communs, en fait, de défense de la terre et de l'eau. Il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, 5 saisons durant lesquelles il y a eu effectivement à chaque fois différents... plein de modalités d'action qui ont été déployées sur, par exemple, je sais pas, Monsanto, sur Monsanto Bayer, sur la question des pesticides, sur les méga-bassines, sur le Grand Paris, par exemple, sur la question du sable, notamment avec Saint-Colomban, la Farge, bien sûr, évidemment.
On a suivi un peu ces différentes saisons. Alors, je sais pas si on a la collection complète, mais en tout cas, on a essayé de suivre ça de près. Donc, ça nous a donné, nous, un ensemble d'émissions. Et peut-être ce qui peut permettre de, de comprendre, quand ça s'appelle donc les soulèvements de la terre, c'est qu'il s'agit de renouer avec une tradition d'une lutte écolo qui s'attaque, on pourrait dire, qui désigne peut-être des ennemis, enfin qui n'est pas simplement quelque chose de plaidoyer, mais qui organiser des actions.
Oh oui, tout à fait. Ça, moi, j'avoue que c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est vraiment au cœur des soulèvements de la Terre. C'est-à-dire que, bon, alors, on n'a pas le temps de refaire l'histoire de l'écologie, mais je pense qu'il y a eu différentes voies qui ont été prises par les personnes qui étaient soucieuses de l'écologie. Je pense notamment, par exemple, à la voie des luttes locales qui ont réussi à avoir des victoires, mais qui n'ont pas été suffisantes, malheureusement. Il y a eu également, du coup, la tentative de faire de l'écologie de parti. Et on voit également que il y a eu des petites victoires, mais que ça n'a pas été nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait un basculement nécessaire qui puisse arriver. Et également aussi, il y a eu, toute une jeunesse qui a déferlé dans la rue, qui demandait un état d'urgence écologique et climatique et qui n'a pas du tout été entendu. Et donc je pense que les soulèvements de la Terre sont vraiment arrivés au moment où toutes ces personnes qui participaient au mouvement écolo, en fait, il y avait un consensus de ne pas être écoutées. Et donc les personnes sont passées en gros du revendicatif à l'actif. Et c'est là où il y a eu un consensus sur autour des, je pense, des modalités des soulèvements de la terre qui sont du coup occupation, blocage et désarmement, mais également des prises de terre et des choses qui sont peut-être considérées comme plus constructives, comme par exemple, je pense à Rouen contre les autoroutes, où il y a eu une fabrication d'une ZAD pour enfants ou réarmer la forêt. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire des actions directes, collectives et impactantes.
Et alors aussi, pour comprendre cette affaire de soulèvement, la formulation soulèvement, de la forme qu'elle a prise, et peut-être aussi qui peut expliquer une partie de la répression qui s'est abattue là récemment, c'est qu'elle a fait d'un ensemble de luttes qui jusque-là était un ensemble de luttes, on va dire, locales, qui était en prise avec des ennemis locaux, on pourrait dire, et d'en faire un mouvement national face à des ennemis nationaux qui étaient désignés comme étant... comme un système qui fonctionne il n'y a pas simplement un projet d'infrastructure à l'endroit, il y a une bétonisation des terres agricoles en France. Enfin, un truc comme ça qui reformule ça, mais qui du coup le rend aussi beaucoup plus offensif au niveau national et qui du coup donne d'autres dynamiques et d'autres ampleurs à ces mouvements.
Oui, tout à fait. Je pense aussi que là-dessus, la modalité du coup qui a été choisie de faire des saisons avec différents actes à chaque saison a du coup permis de faire en sorte que, au lieu d'avoir plein de luttes, il y a toujours plein de luttes,
oui,
mais
ça,
ce que je veux dire,
c'est
que au lieu de des fois avoir des recoupements dans les calendriers ou de ne lutter que sur son territoire, cette forme-là, le fait de proposer un calendrier national a du coup permis de faire en sorte d'allier. Enfin, pour moi, j'aime bien peut-être le conceptualiser comme ça, mais je ne sais pas si c'est très pertinent, mais d'allier le local au global, dans le sens où, les luttes locales, en fait, même le nom n'est pas très approprié, parce qu'en fait, toute lutte locale se bat contre des problématiques qui sont nationales. Si on regarde, par exemple, la question des méga-bassines, je ne sais pas si on y reviendra après ou pas, mais en tout cas, on voit que c'est vraiment hyper important d'empêcher ces projets-là, parce qu'une fois qu'ils seront sur le territoire, ça va vraiment être le prolongement de cette agriculture productiviste. Et donc, du coup, c'est là où on voit que vraiment un projet qui s'insère sur son territoire a en fait un enjeu national, et même au-delà du national.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi de dire qu'effectivement, les projets locaux ne sont pas locaux. Mais justement, le succès des soulèvements, c'est d'avoir fait que ces mouvements qui ne sont pas intrinsèquement locaux, ils ne sont pas restés de fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'on peut se rendre compte rétrospectivement qu'en fait, c'est une logique. Oui, mais sur le moment, le succès des soulèvements, et qui a fait peut-être sa montée en puissance depuis la première saison, avec quelques centaines de personnes en différents endroits, voire quelques milliers, et puis finalement plusieurs dizaines de milliers de personnes contre un projet qui, initialement, comme tu le dis, est un projet local.
Ouais, et, voilà. Et qui et ne faisait même pas partie du débat public. Enfin, je veux dire, c'était des querelles qui restaient vraiment, des querelles un peu, je pense, de niche entre agriculteurs et qui n'avaient vraiment pas du tout percé la couverture médiatique.
Et j'ai la sensation que du coup, pour comprendre, et on va y arriver, hein, sur la répression qui s'abat sur ce mouvement actuellement, je pense qu'on ne peut pas la comprendre si justement on ne comprend pas son succès justement d'avoir fait d'éléments locaux, comme tu dis, des mouvements nationaux qui mobilisent nationalement et qui font sens nationalement.
Et je voulais juste aussi rajouter quelque chose sur ce local global. Je pense que c'est pas, comment dire, effectivement, cette dichotomie entre local et global n'est pas pertinente dans le sens où, en fait, chaque projet local est global. Mais surtout, moi, ce qui me semble très, très important également à comprendre, c'est que quand on dit qu'on est passé du revendicatif à l'actif, je pense aussi que, du coup, ça illustre le fait qu'on est passé d'être dans l'attente à ce que des décisions nationales soient prises par l'État, etc. On est passé d'une attente à, en fait, le fait de réaliser que non, en fait, la lutte écolo, ça peut être tout de suite, maintenant, à la fois près de chez soi ou pas forcément, mais en tout cas, c'est vraiment... On sort vraiment de cette attente que d'autres décident pour nous. Oui. Et c'est ça aussi qui... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, mais je trouve aussi quelque chose qu'ont visibilisé les soulèvements de la Terre, que c'est possible, en fait, d'agir maintenant et de ne pas attendre. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que je pense que ça a sorti peut-être de nombreuses personnes d'un peu une sorte de désespoir aussi, de ne pas savoir quoi faire face au désastre, et du coup de se dire, ah bah non, en fait, on peut agir. On peut soit aller à une action qui va être pas forcément chez soi, mais pas trop loin, etc., et rencontrer plein de gens, et rencontrer plein de nouvelles pratiques et toute une culture politique, ou également se rendre compte que, bah voilà, à côté de chez soi, en fait, il y a tel projet contre lequel c'est évident qu'on est contre, un entrepôt Amazon, à tout hasard, on peut se mobiliser contre.
Ouais. Bon, et ben, peut-être sur sur la compréhension du succès des soulèvements et qui en fait presque préside à leur répression, puisque dans le contexte actuel, on sait bien que les mouvements qui fonctionnent presque sont presque voués à être réprimés, puisque précisément ils fonctionnent. Ouais. Et donc peut-être on va revenir à la cette inflexion de la répression qui s'est battue au printemps après une première pause musicale.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en
et on a noyé dans des lits d'essence le souvenir borgne de l'innocence, en équilibre sur un fil de feu, comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire qu'on tout crame, c'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste, quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas, mon père, ma mère ne pleurez pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
Ils m'ont parlé des 30 glorieuses, dois-je les avertir que la suite sera laborieuse? Purée, ils n'ont pas fait jurer notre perte, censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte. Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron? Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme, pleurer c'est pas notre cas, et l'air est au napalm. Qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab? Prisonniers du sous-développement durable, vrais monstres élevés dans les ronces de ces sales races qui n'ont pas les réponses.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux, et bien avant que ça reparte en queue. Qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie. Et eh bien, on est toujours en train de parler de la répression qui s'abat sur le mouvement écolo en ce moment et sur les soulèvements plus particulièrement. Et donc voilà, on vient un peu de dresser la dynamique des soulèvements depuis ces 5 saisons. Et cette montée, on va dire, en efficacité et en mobilisation de ces soulèvements de la terre, eh bien, elle s'est accompagnée d'un discours politique autour de ce mouvement qui, si au début s'y intéressait pas spécialement, a fini par le désigner particulièrement d'une façon de le désigner comme ennemi. Est-ce que tu peux nous dire un peu là, ce récit qui a été construit autour des soulèvements par ceux qui voulaient l'empêcher depuis le début, on va dire.
Oui, bien sûr. Du coup, je pense que ce qui a marqué tout le monde, c'est l'emploi du terme par ce cher Darmanin, l'emploi du terme d'éco-terrorisme après la première manifestation à Sainte-Soline qui était en octobre-novembre dernier, qui s'est accompagnée de tout un récit qui, je pense, au final, est somme toute classique dès qu'il y a un mouvement social conséquent, c'est-à-dire tout un discours qui vise à vraiment isoler, criminaliser et à sortir hors du champ politique un mouvement et où là, du coup, c'était tout un récit autour de, c'est des terroristes avec une énorme focale posée sur la violence. Il y a notamment une chronique de Camille Passauvert qui est passée du coup sur France Inter il n'y a pas longtemps et où elle s'est amusée à en une intervention du gouvernement à mettre tous les moments où ils disent le mot violence accompagné des soulèvements de la terre et où on voit qu'en fait c'est vraiment leur but c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pense soulèvement de la terre on pense violence et c'est vrai que c'est assez troublant de voir que à la fois je pense que ce qui est rassurant c'est de voir que ça n'a pas tant fonctionné dans l'espace public dans le sens où heureusement les gens ne se sont pas du tout laissés avoir à ça.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là quand ce discours est produit, il n'y a pas du tout une désertion des militants et des gens engagés auprès des soulèvements. Quoi. Je parle des gens qui participent à ce mouvement au sens large. À ce moment-là, il n'y a pas du tout de désertion et les gens n'arrêtent pas de venir et personne ne croit. Des gens qui y participent massivement ne croient pas une seconde à ce qui est dit, c'est ça le...
Bien sûr. Et ça a été marquant de voir qu'après après la deuxième manifestation à Sainte-Soline, sur laquelle on va revenir, donc au 25 mars dernier, il y avait plus de 200 organisations environnementales, politiques, syndicales, paysannes, qui avaient appelé à participer à cette manifestation. Ça a été vraiment très fort de voir qu'il n'y en a aucune qui s'est mise en retrait ou qui a condamné les violences, comme ils aiment le dire dans les médias.
Alors, on pourrait presque le repenser comme ça rétrospectivement, mais ce discours qui a été produit donc après Sainte-Soline, en fait, il est presque construit pendant Sainte-Soline, puisque ce discours, il s'accompagne, et notamment dans les chaînes d'information continue, mais pas seulement, d'un ensemble d'images qui sont des images extrêmement marquantes de centaines de gardes mobiles déployés, des hélicoptères partout. Et en fait, on produit presque les conditions dans lesquelles on va pouvoir produire ce discours. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait juste eu... pas de gendarmes mobiles, on pourrait dire, bon, il y aurait eu des gens au milieu de la cratère. À ce moment-là, les personnes ne sont pas les terroristes. Et donc, il faut mettre en scène, d'une certaine manière, à Sainte-Soline, presque un décor à ce récit, on pourrait dire.
Bien sûr, je pense que c'est pareil, c'est marquant de voir qu'à Castres-Toulouse, les forces de l'ordre sont restées à distance des manifestants et il n'y a eu absolument aucun affrontement.
Il y a une course de cartes, quoi.
Exactement, pour savoir lequel allait aller le moins vite possible. On l'observe bien que c'est toujours le maintien de l'ordre et le choix du maintien de l'ordre qui fixe en fait le seuil de la violence. C'est toujours comme ça. Et après, je pense que c'est important de rappeler également qu'en France, on a vraiment un maintien de l'ordre qui est unique en Europe, du moins, dans le sens où, dans la plupart des autres pays, ce qui est prioritaire, c'est de faire en sorte que de garder l'intégrité physique des gens. Mmh. C'est-à-dire, on peut autoriser des dégradations matérielles, ça reste des dégradations matérielles, mais le, voilà, on se focalise sur empêcher, qu'il y ait le moins possible de personnes blessées. Mmh. Alors que là, à Sainte-Soline, on voit que ça a été vraiment l'exact opposé. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à tuer pour protéger un cratère dans lequel il n'y avait même pas de bâche. Mmh. Et absolument, enfin, il n'y avait même rien à dégrader dans cette bâche. C'était vraiment uniquement symbolique. Mmh. Et voilà, après, je pense aussi que c'est vraiment important de resituer ce déferlement de violence au sein de la séquence politique dans laquelle on était, c'est-à-dire qu'il y avait également toute une répression policière qui s'abattait sur le mouvement social contre les retraites. Et voilà, il y avait vraiment des personnes qui étaient à la fois engagées contre la réforme des retraites et à la fois, bien sûr, dans les mouvements écolos qui se sont pris cette violence-là de la répression policière.
Et toi, là, sur le, justement, quand tu dates ça à Sainte-Soline, c'est que jusque dans les saisons précédentes, on pourrait dire les trois premières saisons des soulèvements, la présence des forces de l'ordre en tant que force vraiment d'empêchement total, voire de production d'un décor et d'un discours comme ça de violence, à ce moment-là, il est peu présent. Les actions précédentes, c'est pas le fait marquant des actions précédentes, on pourrait dire, des soulèvements. C'est-à-dire que ça se passe plutôt bien, sur place en tout cas, vis-à-vis des forces de l'ordre. Il n'y a pas de déferlement de violence, ni de, sur les premiers moments, quoi.
Oui. Ça n'avait rien de comparable. Et je pense vraiment que le fait que le seuil de répression est devenu vraiment beaucoup plus fort, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'en fait, le gouvernement a peur d'un mouvement écolo, populaire et conséquent, quoi. Qui propose vraiment des manifestations avec un impact. Et après aussi, quelque chose qui me tenait à cœur de dire, c'est que je pense aussi que du coup, cette répression qui s'est abattue sur à la fois les mouvements sociaux dans la rue et sur le mouvement écolo, en fait, ça a aussi visibilisé des violences policières en fait, d'autres populations, notamment les habitantes et habitantes de quartiers populaires, les personnes qui n'ont pas les bons papiers, que ces personnes-là, dont c'est le quotidien, en fait. Évidemment que j'ai une forte pensée pour Naël, qui, du coup, a été abattue froidement par la police il y a deux jours. Et je pense que c'est important que de maintenant, maintenant que le mouvement écolo aussi a une répression très très forte et sociale également, de se dire que il tient qu'à nous de vraiment de transformer cette prise de conscience en geste de solidarité et en action concrète partout où il y a des luttes sociales écolo, et même si on n'est pas forcément au même endroit que des quartiers populaires.
Mais là, ce que tu dis justement, donc là tu parles du fait que ce niveau de violence de répression effectivement n'était pas du tout inédit dans les quartiers, mais on peut prendre en fait presque la même chose sur le fait de dissolution, qui est inédit pour les mouvements écolos, mais qui en fait avait été produit à la base pour lutter, enfin tel que c'était formulé, mais voilà, évidemment que ça allait servir après pour d'autres mouvements, mais tel qu'il était formulé initialement, c'était directement visé contre notamment les associations musulmanes, mais plus largement en fait des associations de quartier et autres qui et là, de la même manière, on n'a pas beaucoup de gens, quand tu lis sur les soulèvements de la terre, ont eu un côté de dire c'est nouveau, c'est inédit. Et en fait, non,
c'est pas du tout inédit. Je pense que tu fais référence du coup à la loi séparatisme, mais qui est comme tu l'as dit, qui est une loi profondément raciste et islamophobe. Enfin, c'est, on a vu que ça s'est d'abord, comme d'habitude, abattu sur les habitantes et habitants de quartiers populaires, sur les populations musulmanes, qui sont toujours en fait les laboratoires de la répression et les premiers concernés. Et je pense que c'est vraiment important de le garder en tête.
Alors cette dissolution, donc elle finit par arriver. Alors elle était annoncée en deux temps, puisqu'il y a déjà une première annonce dès quelques jours après Sainte-Soline, de mars, du 25 mars, et les images absolument terrifiantes d'une répression, hallucinante, de très nombreux blessés, des blessés très graves. Et immédiatement après, eh bien, ce vocable de éco-terroriste est évidemment remis en avant, et là pour justifier cette fois-ci la dissolution qui finalement n'a pas lieu, mais parce qu'elle est... C'est quoi ? C'est, en fait, elle n'est pas encore possible. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils traînent. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a plein de collectifs qui défendent, qui montrent au créneau pour défendre les soulèvements. Et du coup, ça met du temps, en fait, cette affaire de dissolution. Elle met presque 2-3 mois à être effective, en fait, quoi.
Ouais, alors, du coup, ouais, sur la dissolution, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. À la fois, je pense vraiment très profondément que juridiquement, c'est compliqué, parce que les soulèvements, c'est pas une association de loi 1901, c'est vraiment un mouvement. Il y a plein de collectifs qui font partie des soulèvements. Il y a la Confédération Paysanne, il y a Extinction Rébellion, il y a la CGT, il y a Solidaire. Enfin, c'est vraiment un mouvement auquel participent plein de personnes, plein d'organisations, de collectifs, des prix Nobel de la littérature, des professeurs au Collège de France, enfin... Et du coup, déjà, juridiquement, je pense que c'est difficile à mettre en place, quoi. Ça ne fait pas vraiment sens. En plus, au niveau des raisons pour lesquelles il y aurait cette dissolution, qui du coup vise à dire que les soulèvements appellent à la violence, etc., on voit que là-dessus, c'est vraiment très, très fébrile comme construction. Et ensuite, également, c'est vrai que suite donc, à cette première annonce de volonté de dissoudre les soulèvements de la Terre, on a vu émerger vraiment 1000 gestes de soutien, donc à la fois une tribune à laquelle se sont empressés de signer actuellement plus de quasiment 150 000 personnes. Donc on voit que quand on dit que faire partie de ce mouvement va devenir illégal et quand il y a 150 000 personnes qui s'empressent de le signer, bah, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas à ce moment-là. Il y a eu également, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve aussi très, très intéressant. Il y a plus de 180 comités locaux dans tout le territoire qui sont nés, même également en Belgique, en Suisse, un peu partout. Des rassemblements de soutien, une soirée de soutien à laquelle ont participé plein de personnalités publiques à laquelle ils ont affirmé leur appartenance au soulèvement de la Terre. Enfin, il y a eu vraiment tellement de gestes de soutien que je pense que voilà, il y a eu un mélange de ils ont pris peur, c'était pas assez solide juridiquement, c'est impossible à mettre en pratique. Ouais. Du coup, je pense que voilà, il y a eu tout ça qui a fait que la dissolution en tout cas n'a pas été prononcée tout de suite après l'annonce de la volonté de dissoudre.
Et même ce qui est intéressant, je trouve, sur cette séquence-là, c'est qu'on a même eu l'impression que ça n'était que la démonstration que les soulèvements n'étaient pas un groupuscule, mais un véritable mouvement, quoi. Enfin, et qu'en fait, c'est ça qu'ils ont ressorti pour eux d'une certaine manière. Mais peut-être qu'il a justement préparé le terrain à cette effective dissolution qui a lieu qui a été prononcée le 21 juin, c'est ça ?
Exactement.
Et là, cette fois-ci, exécuté. Alors, c'est quoi pour eux, le changement ? C'est que malgré tout ça, eh bien, il y a encore le succès d'une nouvelle action au sud de Nantes, visée donc cette fois-ci contre l'exploitation de sable et contre une certaine forme de maraîchage qui rentre parfaitement dans ce qui était dit dans les saisons précédentes comme étant un accaparement des terres et une production agricole qui n'est pas du tout celle qui est désirable. Et voilà, et c'est quoi, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas... ils ont face à un mouvement social, il faut faire quelque chose, c'est ça le...
Eh bien, là-dessus, je pense que c'est très intéressant d'aller voir l'article de reporter qui s'intitule « Comment la FNSEA a eu la peau des soulèvements de la Terre » et qui met en lumière, en fait, le rôle qu'a eu la FNSEA dans la dissolution. Je pense notamment à Arnaud Rousseau, donc l'actuel président de la FNSEA, qui a menacé en fait en disant que si jamais la dissolution n'était pas actée, il ne pourrait pas retenir ses troupes. Et ça s'ancre quand même dans plein de faits de violence et d'intimidation. À la fois à laquelle la FNSEA a des liens, quoi, mais également qui est plutôt générale, qui s'attaque à toutes les personnes qui essaient en fait de critiquer, de lutter contre l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Là-dessus, par exemple, on peut rappeler le neveu du porte-parole de Bassine Non Merci qui s'est fait tabasser, Morgane Large qui avait diffusé un documentaire qui s'intitulait Bretagne, une terre sacrifiée, et qui, suite à ça, en fait, La section départementale de la FNSEA a tweeté sa photo, son visage, et suite à ça, les portes de sa radio ont été enfoncées, son chien a été empoisonné, les roues de sa voiture ont été déboulonnées à deux reprises, donc elle a failli mourir en fait. Il y a également Paul François, l'agriculteur, qui avait gagné un procès contre Monsanto, qui a été violemment agressé chez lui, menotté. Enfin, voilà. Donc je pense que. Exactement. Je pense qu'on peut même parler de pratiques mafieuses, à vrai dire. Et donc là-dessus, voilà, je pense vraiment que c'est important en fait de rappeler le rôle de la FNSEA dans cette dissolution, et tout en prenant garde à également. Parce que voilà, il y a des appels à dissoudre la FNSEA qui sont parus, mais à bien distancier en fait le complexe agro-industriel de ses adhérents, dans le sens où personnellement, en tout cas, je considère qu'une bonne partie des agriculteurs en fait sont plutôt prisonniers d'un certain modèle, notamment à cause du libre-échange, de la modernisation forcée qu'il y a eu, qui sont devenus des véritables débouchés pour l'agro-industrie, et qui du coup ne sont pas les personnes responsables de ça, mais où c'est vraiment plutôt des dynamiques systémiques.
On a effectivement nous déjà fait des émissions sur ça, et notamment sur le caractère presque féodal de cette organisation, où en fait on en est dépendant, c'est-à-dire que si on n'est pas à la FNSEA ou dans ces gros syndicats, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont très compliqués, on est vite fait mis en minorité, qui sont tenus par les plus gros exploitants, qui ne sont qu'une forme particulière, qui n'est pas majoritaire forcément, surtout dans certaines régions, qui n'est pas majoritaire. Et sauf que, précisément, la puissance de la FNSEA fait qu'elle a son entrée directement dans certains ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, évidemment. La nouveauté, c'est qu'elle a presque entrée aussi au ministère de l'Intérieur, au sens où il y avait déjà avant le président de la cellule Déméter, qui est. Alors, je ne sais pas si tu as deux, trois éléments sur l'existence de Déméter et son rôle peut-être encore actif,
Sur son rôle encore actif, ça, j'ai pas d'éléments. Mais en revanche, effectivement, c'est une cellule qui a été créée de par la volonté de, enfin, où la FNSEA a eu un rôle actif dans sa création. Il y a aussi une petite anecdote assez marrante, je sais pas, mais à son propos, qui est que cette cellule avait été dissoute, sans mauvais jeu de mots. Elle était censée ne plus exister. Et récemment, il y a une personne qui du coup participait à cette cellule, qui a priori du coup existait encore, qui a tweeté une photo d'une réunion en disant petite réunion de la cellule Déméter, et qui en fait ça a fait évidemment un tollé dans les réseaux sociaux parce que cette cellule n'était plus censée exister. La personne a supprimé la photo un peu après, effectivement il y a des liens assez forts entre entre le ministère de l'Intérieur et l'agro-industrie.
Mais alors ça, c'est très embêtant, on pourrait dire, parce que le projet des soulèvements en partie, à savoir lutter contre l'accaparement des terres et un certain modèle agricole, eh bien, il se heurte aussi donc à en fait une organisation comme tu dis mafieuse qui a ses entrées en termes de donc policières puisque c'est eux qui vont organiser, qui vont exiger une répression et qui vont l'obtenir et pour toi du coup il y a vraiment dans cette dissolution le fait d'avoir peut-être désigné justement en fait les vrais responsables, c'est-à-dire que la FNA a dû se défendre d'une certaine manière quoi, c'est presque un geste de défense on pourrait dire de sa part, enfin c'est-à-dire que elle est réellement contestée et les bassines, la contestation massive des bassines nationalement a fait exister ce problème nationalement que la FNSEA avait bien envie de garder comme un petit problème local agriculteur en fait quoi. Donc là il y a peut-être c'est peut-être la conséquence d'une vraie désignation de responsable quoi.
Oui, de nouveau je pense vraiment que toute cette répression en fait est vraiment la preuve qu'on touche juste et qu'effectivement il y a un vrai rapport de force qui s'est constitué et que du coup les personnes prennent peur quoi. Et après voilà je pense aussi que c'est important, donc on parlait de la collusion du coup entre entre le ministère de l'Intérieur, du coup la FNSEA et du coup dans le cadre de cette dissolution, je pense que c'est aussi important de préciser que donc il y a également une répression pénale qui s'est abattue le mouvement écolo de manière globale, avec trois vagues d'arrestations sur lesquelles on va revenir après tout à l'heure, mais juste pour dire qu'il y a vraiment eu des collusions à cet endroit-là, parce que la veille de l'annonce du décret, il y a eu du coup deux personnes qui dont le nom figure sur le décret de dissolution, qui ont été arrêtées par du coup la sous-direction antiterroriste. Donc c'est là où on voit le lien entre à quel point c'était important. Tout d'abord cette répression discursive avec ce mot d'éco-terrorisme qui est en fait est venu ensuite à travers des moyens de l'antiterrorisme pour qui a été déployé contre le mouvement la veille de la dissolution, donc deux personnes qui sont mises dans les cellules donc quatrième sous-sol de la SDAT, et du coup on voit vraiment la collusion, parce que ça y avait une des deux personnes qui était également un porte-parole du mouvement, donc ça a à la fois privé le mouvement d'une parole publique et également de pouvoir se défendre et commencer tout le travail de défense.
On sent que ça avait été quand même une opération assez réfléchie, c'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard dans les dates et dans l'organisation de la chose.
Oui, bien sûr.
Peut-être on va passer du coup à effectivement la vague de répression qui s'est abattue. On va vraiment parler des personnes et on va voir comment vont ces personnes, et on fait avant une petite pause musicale.
I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights, those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights.
Vas-y, cours, enfoiré, cours. Moi je voulais crever sur scène pour que le monde se souvienne. Cours, enfoiré, cours. Moi je voulais crever sur scène.
Je regarde ma mère, je lui tape un dernier bisou sur le front. Rap en musique de fond, je vois des petits qui jouent sur le pont. Moi je suis qu'une ronce qui a poussé sur un sol infertile. Et vu d'où je pars, je risque pas d'attraper le vertige. Ici tous les jours c'est le Veldiv. Sombre expertise, parfois d'ex-bandits deviennent frères et parfois d'ex-frertise. Je voulais le flash des stroboscopes pour que ses yeux s'écarquillent. Quand se pointe les Robocop, même les innocents s'éparpillent.
Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you and mommy to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand to the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Level of a felon when I've done nothing wrong.
Je me suis levé du mauvais pied, j'ai dormi qu'une oreille. Où est-ce que j'ai mis mon tarpé? Où est-ce que j'ai mis tous mes rêves? Je connais pas clé de réussite, mais je connais clé de l'échec. C'est de vouloir plaire à tout le monde et d'être focus sur les schnecks. Et parfois je me demande si c'est des hommes ce qu'ils ressentent, ceux qui ont fumé à ta main. Est-ce que la nuit ils se repentent? Ou est-ce que même ils y repensent? Sinueux sont les rues que j'arpente, la gueule de bois est puissante et les pointes sont glissantes. J'ai tout le corps qui frissonne, je me sens comme dans un trisome. Je sais pas trop où donner de la tête, j'entends cette voix qui résonne, qui me dit cours, négro, cours, même si t'as rien fait d'étale. S'ils sont grands, qu'on est à genoux. Enlève-les de leur piédestal. Vas-y, cours, enfoiré, cours dans cette jungle urbaine. Soit tu crèves. Dans la rue, y'a pas de suspense. J'entends le bruit des sirènes et ça me crée des acouphènes. Moi, je voulais crever sur scène pour que le monde se souvienne.
Vas-y, cours, enfoiré, cours.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie. Et on est toujours en train de parler eh bien, de la répression qui s'abat sur les soulèvements de la Terre. Et donc là, on va rentrer dans ce qui s'est passé au printemps, au-delà de la dissolution de la question administrative, de ce qui, la répression qui s'est abattue sur les personnes et qui ont eu à le vivre dans leur chair. Hein. Puisqu'il y a eu à la fois donc, les blessés et les interpellations. Donc on peut peut-être commencer quand même par les blessés qu'il y a pu y avoir sur les derniers événements des soulèvements, et notamment ce qui a pu se passer à Sainte-Soline, qui était quand même assez hallucinant et inédit, en tout cas pour le mouvement écolo, de cette ampleur et de cette violence et des moyens mis en place par la police pour réprimer et marquer presque dans les corps et dans les chairs leur participation à un mouvement.
Oui, je pense que c'était vraiment clair que leur but, c'était de terroriser les gens et de les marquer dans leur chair pour faire en sorte de décourager les personnes qui étaient présentes. Enfin, il y a eu des milliers de grenades qui en à peine 2 heures qui se sont abattues sur les manifestants de manière totalement indiscriminée. Enfin, ça a été je sais plus, mais je crois que c'était une grenade toutes les 2 secondes. Enfin, c'était personnellement j'y étais présente et je me souviens que toutes les 45 secondes on entendait quelqu'un crier médic, médic, et on voyait des personnes qui étaient vraiment gravement blessés, soit tombés à côté de nous ou être transportés. Enfin, c'était vraiment d'une violence inédite, en tout cas, moi, en tout cas, de ce que j'avais pu voir, mais même avec les personnes avec lesquelles j'en ai discuté, qui étaient peut-être je ne veux pas dire des vieux de la vieille, mais en tout cas des personnes habituées aux manifestations, tant dans les mouvements sociaux et écolos, et qui vraiment ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. C'est en termes de. Il y a 3 personnes qui ont frôlé la mort, il y a eu des dizaines qui ont été mutilées, des centaines qui ont été blessées, des milliers qui ont été traumatisées. Enfin, ça a été un bilan. En vraiment très peu de temps, qui est vraiment très très lourd. Il y a vraiment, ça a été vraiment très très, je pense, traumatisant pour tout le monde, à vrai dire.
Et encore une fois, on le rappelle, la disproportion face à ce qu'il y avait à défendre, à savoir un cratère.
Oui, bien sûr. Non, mais t'as raison, je pense que c'est important de le rappeler.
Il ne s'agissait pas de prendre le tarmac d'un aéroport parisien. Non, c'était un cratère.
C'est vraiment, comment dire, Je pense que c'est pas possible qu'ils, ils avaient forcément l'ordre de tout faire, quitte à tuer, pour ne pas laisser les gens rentrer sur ce cratère.
Et là, on sent que la répression, à ce moment-là, elle devient presque le cœur de l'action de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'empêcher ou de protéger une cible qui aurait été désignée, mais d'abord, avant tout, on va réprimer, marquer les gens. On réprime un mouvement à ce moment-là, presque, plus qu'une action.
Oui, bien sûr. Oui. Et de nouveau rappeler que c'était vraiment représentatif en fait du mouvement social dans son ensemble, dans le sens où du vide qui est juste défendu par l'État policier, quoi. Enfin, qui est juste défendu par la police. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment une belle représentation de la Macronie, quoi.
Et donc comme tu l'as rappelé, hein, cette action à Sainte-Soline, enfin cette journée, ce week-end à Sainte-Soline, qui était donc au mois de mars, était en fait aussi pendant le mouvement social contre les retraites, et qu'il y a peut-être aussi un continuum à ce moment-là de la violence que l'État exerce contre le mouvement social et qui se décline là, ce week-end-là, pour la question écolo, ce qui fait qu'il n'y a plus de traitement différent maintenant entre la question sociale qui pouvait être massivement réprimée en ville, on pourrait dire, et le mouvement écolo qui lui aussi désormais est massivement réprimé, et avec les mêmes arbres et les mêmes armes et la même violence.
Oui. Après, je pense que c'était pas la première fois non plus que le mouvement écolo...
Il y a déjà eu des répressions, bien sûr, on est d'accord.
Oui.
Et donc, la deuxième élément donc qui s'est attaqué directement aux personnes, qui a pris plus de temps cette fois-ci, ils ont préparé le travail. Eh bien, c'est une série d'interpellations, plusieurs séries d'interpellations assez nombreuses, et même par encore une fois des chiffres assez inédits, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des interpellations dans les mouvements écolos. Mais en voir autant interpellés dans ces telles conditions et sous le régime particulier de l'antiterrorisme, enfin, pas forcément qualifié comme antiterroriste du point de vue juridique, mais en tout cas avec les moyens de l'antiterrorisme. Oui. Et donc ça commence plus tardivement, ça commence en juin, quoi. C'est tout récent là, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci, quoi.
Exactement, ouais. Donc en fait il y a eu trois vagues d'arrestations. La première, ça a été le lundi 5 juin où il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été interpellées à 6h du matin, des fois par le RAID, des fois par du coup la SDAT, donc l'antiterrorisme, qui après de longues heures de garde à vue, puisque le motif c'était au nom de destruction en bande organisée, il me semble également association de malfaiteurs, et donc ces motifs-là permettent de garder les personnes en garde à vue plus longtemps que les 24 ou 48 heures habituelles.
Non, on pousse à 96 heures, hein, on vous rappelle quand même, ça fait 4 jours. Hein,
c'est vraiment très très long, et des fois dans des conditions vraiment déplorables. Et donc voilà, au terme de, il me semble, au maximum 80 heures, les personnes sont sorties sans suite pour l'heure, mais on ne sait pas ce qui va en être après. Il y a eu ensuite une seconde vague d'arrestations. Pour dire... que du coup, que cette première vague d'arrestation, ce qui était au cœur de cette affaire, c'était du coup, les personnes étaient suspectées d'avoir participé à l'envahissement de
la cimenterie Lafarge de Bouc-Bel-Air près de Marseille.
Bouc-Bel-Air, exactement. C'est ça. Ouais.
Et donc, en fait, qui n'était. C'était pas pour les événements de Sainte-Soline, en fait.
C'est-à-dire
que c'est ça, c'était quelque chose qui avait été en plus pas extrêmement médiatisé forcément. Et donc, ça, c'est ça le point qui fait que ces personnes-là, à ce moment donné, sont interpellées. Quoi. C'est pour cette action à Bouc-Bel-Air.
Oui, tout à fait. Et peut-être, je pense que c'est important de rappeler que c'était une action qui était contre Lafarge, rappeler que Lafarge, donc ces personnes-là sont sous le régime, en tout cas, on utilise les moyens de l'antiterrorisme contre ces personnes-là, et je pense que c'est important de préciser que voilà, que Daesh a été condamné.
Non, Lafarge a été condamné.
Pardon. Lafarge a été condamné aux États-Unis pour avoir financé Daesh.
Une ironie là, c'est quand même.
En plus, voilà, ils ont été condamnés. Il me semble qu'il y a une association qui a compté le nombre de condamnations environnementales qu'a eu aux États-Unis. Et en 20 ans, ils avaient plus d'une centaine de condamnations environnementales. En France, il me semble que là, ils sont mis en examen pour crimes contre l'humanité. C'est pas rien quand même. On parle de personnes qui, moi, à mon sens, en tout cas, font une action qui est éminemment salutaire et nécessaire. Et on parle de dégradation matérielle. C'est vraiment... Et voilà, contre du coup, la bétonisation du monde. Juste rappeler également quelques chiffres là-dessus, que actuellement, en France... tous les jours, c'est plus de 200, l'équivalent de 200 terrains de foot en terre arable qui sont bétonisés par jour. Ça fait un terrain de foot toutes les 7 minutes. Donc pendant l'émission, je ne vais pas faire le calcul, mais il y en a quand même eu déjà pas mal, quoi. Quasiment une dizaine de terrains de foot bétonisés. Donc c'est... Voilà, je pense que c'est vraiment une action salutaire qui avait été relayée par les soulèvements de la Terre.
Donc ça, c'est la première vague d'interpellation. Et quelques, même pas semaines après, de nouveau, aux alentours du 20 juin, de nouveau, une vague d'interpellation.
Exactement. Donc là, je pense que de nouveau, la temporalité n'est pas anodine. Donc c'était la veille de la dissolution, le mardi 20 juin, où là, les motifs ont été plus larges. Mais de nouveau, il y a eu 18 personnes, il me semble, qui ont été arrêtées dans toute la France. Et cette fois-ci, avec des motifs, effectivement, alors soit pour Sainte-Soline, soit pour cette affaire de Lafarge, ou pour d'autres choses peut-être un peu plus floues. En tout cas, donc de nouveau, ça a été les moyens de l'antiterrorisme qui ont été sollicités. Il me tenait à cœur de lire un témoignage d'une habitante de Notre-Dame-des-Landes.
Donc là où a lieu un ensemble d'interpellations.
Exactement, oui. Donc elle raconte la chose suivante. Ils sont arrivés en cassant la porte au bélier, porte qui était ouverte, je précise. Je suis arrivée dans l'entrée de la maison, ils m'ont hurlé de me coucher en m'aveuglant, sans me dire qui ils cherchaient ni pourquoi ils étaient là. Je voulais aller rejoindre ma fille qui était dans sa chambre, elle a 5 ans. Ils m'ont frappée et plaquée au sol pour m'en empêcher. Ils ont finalement été chercher ma fille après plusieurs échanges houleux, puis enfin m'ont demandé qui j'étais. Ils ont alors dit que je n'étais pas celle qu'ils cherchaient. Et ils sont allés chez ma voisine, l'ont arrêtée en nous maintenant dans une chambre sous surveillance d'un flic. Donc, pour donner un petit peu voilà, l'ambiance, enfin, vraiment encore une
là,
fois.
Là, on s'attaque vraiment. C'est-à-dire que, OK, il s'agit de réprimer un mouvement, mais là, à ce moment-là, on va s'attaquer vraiment aux personnes. Quoi.
Et oui, bien sûr.
Il faut marquer à ce moment-là, avec plus tant les corps que cette fois-ci maintenant les esprits.
Oui, avec une disproportion totale des moyens utilisés. Enfin, dans certains cas, il y avait des hélicoptères qui étaient présents, une quarantaine de personnes cagoulées qui arrivent en braquant avec leurs armes les personnes. Il y a eu notamment une arrestation qui est décrite dans Mediapart, dans un article de Mediapart de Jade Lingard, d'une personne qui sortait quand même de 3 semaines d'hospitalisation, dont une en réanimation, et qui, la veille de l'arrestation, il y avait un rapport du médecin traitant qui assurait qu'il avait besoin d'une période de repos et doit éviter les lieux pouvant être source d'infection compte tenu de son immunodépression chronique.
Une cellule, c'est bien. Hein.
Voilà, je pense que le quatrième sous-sol de l'ASDAT, c'était pas forcément... Donc lui, pareil, déferlement de moyens complètement disproportionnés qui sont arrivés. Donc lui, il allait justement, ce jour-là, il était censé aller faire un scanner hyper important parce qu'il a un cancer. Du coup, il était censé partir faire son scanner quand tout d'un coup, il y a des dizaines de personnes qui ont débarqué, cagoulées, armées, avec des boucliers, qui ont crié « Target en vue !» et qui du coup, lui, il a dit « Attendez, doucement, je suis malade, etc. » Ils ont dit « Oui, on sait. » Et qui l'ont emmené. Et ça a été vraiment... n'importe quoi. Donc il a demandé à ce que son dossier médical soit pris. Ils ont fini par accepter de prendre le dossier médical, mais à chaque fois que des médecins venaient pour le voir et tout d'abord attester si son état de santé était compatible avec la garde à vue, les médecins n'avaient pas accès au dossier médical. Ce qui ont fait que les personnes au début, alors qu'en plus il avait une pneumonie, je crois, et du coup il avait du mal à respirer. Le premier médecin qui est arrivé a dit non mais tu parles trop, t'es en train de faire une crise d'angoisse, tiens prends un Xanax. Et c'est au final parce que des députés sont venus et du coup on demandait à ce que les médecins aient accès au dossier médical que finalement il a pu être libéré parce que justement son état de santé lui permettait pas de faire cette garde à vue en fait.
Alors, sa libération elle-même est vraiment honteuse quoi.
Et voilà, et ils ont fini par donc ils lui ont mis un masque sur les yeux, vous savez, le masque de sommeil. Donc lui, au moment où ils lui ont dit qu'il était libre, donc après lui avoir dit qu'il était libre, ils lui ont mis un masque sur les yeux. Ils l'ont mis dans une voiture, donc il a demandé où est-ce qu'on m'emmène. Ils ont dit tu vas voir. Et finalement, ils l'ont laissé avec ce masque sur les yeux devant un hôpital en lui disant puisque t'es si malade, on te laisse devant un hôpital. Ils avaient même pas prévenu ses proches ni son avocate. Enfin, il s'est retrouvé sans moyen de contacter personne devant un hôpital. Enfin, on est quand même à un niveau de volonté. De faire peur de
mais c'est peut-être là aussi qu'on comprend je ne présume pas du tout de ce qui va se passer pour les interpellations qui ont lieu notamment les interpellations du 5 juin où tout le monde est relâché mais c'est qu'en fait être face à la justice c'est déjà une punition en soi, c'est-à-dire qu'en fait on doit pouvoir formuler que le fait d'être réveillé par un fusil à pompe avec quelqu'un qui enfonce la porte c'est quand même déjà être condamné c'est-à-dire qu'au sens où c'est un traumatisme qui est produit quoi et qu'à ce moment-là c'est une forme déjà de répression indépendamment de ce qui va bien pouvoir advenir des procédures judiciaires que les moyens sont ceux-ci en fait quoi.
Oui, et puis ça a été aussi conjugué avec des prises d'ADN forcées, donc où ils mettaient par exemple cette personne, ils lui ont dit puisque t'es malade on va te mettre un masque Covid sur la bouche, puis après ils l'ont récupéré avec des gants, ils l'ont mis dans une enveloppe, après pendant cette vague d'arrestation il y a aussi une autre histoire qui a été assez qui a été assez médiatisée notamment parce qu'il y avait un militant de ELV qui a été arrêté. Donc pareil, des personnes cagoulées qui débarquent armées à son domicile à 6h du matin.
Ça, on est sur la troisième vague d'interpellation là.
Non, c'est toujours la deuxième. Et donc du coup donc devant femmes, enfants, etc. Et sauf qu'en fait je pense que c'est révélateur aussi du même si on n'a pas on n'a pas connaissance des éléments qu'ils ont pour interpeller ces personnes là mais là en tout cas sur cette personne on a eu l'information que le jour de l'action à laquelle il est présumément suspecté d'avoir participé en fait il était avec 20 de ses amis en train de fêter Noël quoi. Et les éléments qu'ils avaient contre lui c'est il portait une casquette rouge et il y avait quelqu'un sur une photo qui lui ressemble Donc en fait, ils ont fait tout ça pour aller voir si chez lui, il n'y avait pas une casquette rouge.
Oui. Non, ils ont fait tout ça.
Mais oui, enfin, soi-disant, mais voilà, pour, voilà,
on
pour
doit, terroriser. On doit pouvoir formuler les choses différemment.
Bien sûr, bien sûr, t'as raison. Ouais. Et donc ensuite, effectivement, il y a une troisième vague, donc pas d'arrestation cette fois-ci, mais de convocation, avec des fois des gardes à vue, des fois pas des gardes à vue. Et donc là, c'était des personnes qui supposément étaient les organisateurs présumés de des deux manifestations qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Et donc voilà, donc je rappelle quand même que c'était une manifestation qui était appelée par plus de 200 organisations syndicales, politiques, paysannes, environnementales.
Mais justement, c'est ça qui est peut-être par rapport aux éléments qu'on vient de donner de avant, c'est que là, cette fois-ci, sont interpellés. Donc moins de personnes, mais surtout deux personnes de la Confédération Paysanne, une personne du collectif Bassons Unis Nos Merci, une personne de la CGT, une personne de Sud, qui là, cette fois-ci, on s'attaque en fait à des responsables associatifs et syndicaux. On s'intéresse plus simplement à des personnes qui auraient pu être là, mais là, on cherche des organisateurs. Ça comprend en tant que responsabilité, ça que je
fais qu'il y a nouveau à ce moment-là. Oui, avec une personne de Solidaire, etc. Et également les trois personnes qui sont sur la notification, sur le décret de dissolution. Ouais. Et c'est là aussi où on voit que leur risque ne tient pas, quoi, parce que à la fois convoquant les différentes personnes des différents collectifs qui prennent part à la dynamique, du coup en fait ils vont vers en fait c'est quelque chose de collectif, et en même temps en convoquant les trois personnes qui dans leur délire sont les dirigeants d'un groupuscule, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tient pas là de nouveau. Mais par contre, c'est vrai que c'est avec cette nouveauté d'avoir des représentants syndicaux convoqués, je pense que là on voit bien que il y a vraiment une atteinte aux libertés syndicales et aux libertés de manifestation qui
est. Parce qu'à travers ces personnes-là, on s'attaque à ce moment-là, en fait, à l'organisation qu'ils représentent.
Exactement. Mais en plus, en ciblant des personnes, où là, de nouveau, c'est une répression totalement injuste qui va s'abattre sur des personnes, alors que c'est des manifestations auxquelles vraiment de nombreuses personnes ont participé.
Et que peut-être à ce moment-là, la dissolution des soulèvements et la convocation de ces personnes ne peut peut-être pas être découplée complètement avec la phase où il y a eu une attaque assez claire contre les associations des droits de l'homme qui étaient réputées être des alliés objectifs, notamment de l'écoterrorisme. Et tout un truc comme ça qui fait qu'on produit un ennemi intérieur, en fait, qui désormais est aussi associatif, alors que jusque-là, on pensait ces associations-là plutôt prémunies de ça, on va dire, parce qu'elles représentent des gens, parce qu'elles sont inscrites. Et qu'en fait, là, cette dernière vague d'interpellation montre, et la séquence qu'on vient de passer, qu'en fait, pas spécialement, pas complètement, on va dire.
Oui, je pense qu'on a bien vu ça quand Darmanin a menacé de suspendre les subventions de la LDH. C'est très, très inquiétant. C'est quand même des choses qui, normalement, sont plutôt dans des régimes totalitaires. On peut dire ça maintenant un peu ici. Juste pour dire que sur du coup, les conséquences de ces différentes arrestations, pendant la seconde vague d'interpellation, il y a deux personnes qui sont actuellement en prison.
Ah oui, c'est ça, on allait prendre des nouvelles.
Donc il y a notamment un gilet jaune de Bordeaux qui a été condamné à 10 mois de prison ferme. Il y a Loïc également qui avait déjà subi
plusieurs déjà enfermements.
Ces deux personnes-là sont des personnes qui avaient déjà été condamnées en fait. Et donc Loïc a été mis en détention provisoire et dont la demande de remise en liberté a été refusée aujourd'hui même.
Ah d'accord, bon.
Oui, tout à fait. Et qui est en attente d'un procès qui aura lieu le 27 juillet, tout comme trois autres personnes. Donc, je pense que c'est important d'avoir aussi les dates, différentes dates,
aura déjà été condamné à plus d'un mois et demi de prison avant même son procès.
Exactement.
Donc, il a déjà condamné lui.
Alors qu'il sort de 16 mois de prison en Allemagne avant. Enfin, c'est vraiment assez dur. Sur les personnes qui, du coup, sont suspectées d'avoir participé à l'affaire Lafarge, il y a deux personnes qui sont convoquées à Aix le 11 juillet. Mm-hmm. Et donc, pareil, il y aura des rassemblements de soutien. Je pense que c'est important de nouveau d'avoir ces dates en tête là. Et pareil, donc pour la première manifestation à Sainte-Soline, il y a cinq personnes qui sont convoquées au tribunal, cinq personnes pour la seconde manifestation, avec à chaque fois des personnes qui sont dans les deux procès.
Et ben, on va se tenir au courant de ça. Merci bien d'avoir donné de nouvelles. On a évidemment une pensée pour les deux personnes dont on vient de parler qui sont en prison, ainsi que tous les autres prisonniers. Et évidemment, et bien dans le contexte actuel, on a bien une pensée pour toutes les personnes victimes de la violence policière et plus encore ceux qui ont été tués par la police, qui sont quand même plusieurs dizaines par an. On a bien une pensée pour toutes leurs familles. Alors, il y aura des rendez-vous pendant les vacances. Il y aura donc les rendez-vous qu'on va relayer là pour défendre les personnes qui vont être en procès. Et aussi, il y aura des rendez-vous, notamment début août. Il y aura des rendez-vous au Larzac.
Et également le convoi de l'eau qui, du coup, n'est plus organisé par les soulèvements parce que administrativement dissous. Mais comme à chaque action des soulèvements de la terre, ce n'est pas uniquement organisé par les soulèvements de la terre, c'est organisé du coup en partie par Bassine Non Merci. Ouais. Et donc à partir du 18 août, il y aura le convoi de l'eau. Et il y a également aussi un appel des peuples de l'eau actuellement, donc les 100 jours pour les sécher. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner.
Ok, et bien très bien, bon, on le relayera tout ça, et puis on vous souhaite des vacances reposantes et constructives. Voilà.